La grande édition vous est présentée par Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour à tous. Et au sommaire de ce journal, le procès du trésor de Laves. Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu son jugement, peine moins sévère que ce qui avait été requis en février. Nous verrons le retour de l'enfant prodigue à Fouriani. Frédéric Antonette y revient, mais pas tout de suite et pas comme entraîneur. L'Assemblée de Corse va se pencher sur l'écriture constitutionnelle du projet d'autonomie politique de l'île. À midi et demi, dans le magazine de la rédaction, on parlera d'économie. Nous verrons si le politique peut changer la donne. Le rectorat d'Ajaccio surveille les attaques informatiques. La messagerie parents-prof est toujours sous surveillance après des messages malveillants. C'est un euphémisme. Et puis, comme tous les mercredis, rendez-vous avec les JO et un coup de projecteur sur une discipline. Aujourd'hui, c'est le judo. Et on débute tout ça avec des consignes de prudence sur la route, route de moyenne montagne notamment. Les équipements spéciaux sont à prévoir pour franchir l'école. Ça passe à l'heure actuelle, mais la situation peut se dégrader. Météo France a placé la Corse du Sud en vigilance jaune pour le paramètre vague submersion à compter de cette nuit, 3h du matin jusqu'à vendredi minuit. Jean-Félix Acquaviva a condamné pour favoritisme. L'info a été révélée par nos confrères de Mediapart. Cette condamnation qui date du 30 novembre dernier est passée sous les radars. Jean-Félix Acquaviva a été condamné à 8 000 € d'amende, dont 5 000 avec sursis en tant que maire de Lodz pour avoir favorisé Alban Giron pour la construction d'un parking d'un montant de 52 000 € et la réfection d'une piste de montagne pour 209 000 €. Or, Alban Giron, conseiller municipal, membre de Fémois-Gourd, Siga, était présent lors du vote du conseil municipal. Les faits avaient été dénoncés par une lettre anonyme en 2016. Jean-Félix Acquaviva avait plaidé une erreur de forme. Dans l'affaire du trésor de Laves, fameuse affaire, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu ce matin son délibéré. Le procès de Félix Biancamari et Jean-Michel Richaud avait eu lieu les 29 et 30 janvier dernier. Biancamari a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour recel, 8 mois avec sursis pour Richaud. Les deux sont condamnés à une amende fiscale solidaire de 200 000 €, une décision qui était attendue, Paul Ortoli.
Oui, une décision sans surprise dont la défense a immédiatement fait appel. Félix Biancamari a écopé d'un an de prison avec sursis et ne repart donc pas avec son plan en or sous le bras, comme il l'espérait. Dans son délibéré, la justice n'a pas eu la main lourde sur le quantum de la peine, car elle a tenu compte du temps interminable de l'instruction. 14 années depuis l'arrestation de Félix Biancamari en gare de Roissy en 2010, avec le plan en or romain caché dans son sac pour le vendre en Belgique. Il provient du trésor vieux de 17 siècles, contenant 1400 pièces en or qu'il avait retrouvées en 1986 dans une crique de la Haye avec deux hommes. Là aussi tranchant le nœud gordien des versions contradictoires, le tribunal a opté pour la plus simple. Il s'agit bien d'une découverte sous-marine et non terrestre. Une découverte miraculeuse lors d'une pêche aux oursins avec un trésor volé dans une épave au sens juridique du terme, même si la galère romaine n'a jamais été retrouvée. Jean-Michel Richaud, prévenu pour avoir aidé son complice à vendre le plat, a lui été condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Enfin, une amende fiscale solidaire de 200 000 € a été prononcée. Le parquet avait requis 4 fois plus.
Allez, plus important maintenant que le trésor de Laves, le trésor de Fouriani pour les supporters avec le retour à la maison de Frédéric Antonetti. 23 ans après son dernier match à la tête du SCB, Antonetti revient au sein de la Maison Bleue, pas en tant que coach, mais en tant que directeur technique. Un retour qui, en revanche, ne sera fait qu'à l'issue de la saison actuelle. Malgré tout, cette annonce faite par le Sporting hier soir par un communiqué a suscité un énorme engouement auprès du peuple bleu qui voit en Frédéric Antonetti un véritable atout pour les années à venir. Il faut dire, Jean-Philippe Thibaudeau, qu'Antonetti a véritablement marqué les esprits durant son passage sur le banc bastiais.
Frédéric Antonetti restera à jamais dans la mémoire des supporters comme celui qui a ramené le Sporting en Coupe d'Europe. C'était lors de la saison 97-98 où, après une incroyable campagne en Coupe Intertoto, le club bastiais retrouvait la Coupe UEFA 20 ans après sa magnifique épopée. Mais Frédéric Antonetti, c'est avant tout un homme passionné, au caractère bien trempé et aux envolées mémorables sur le banc de touche et en conférence de presse. Pourtant, cantonner uniquement le natif de Venzolas qu'à ces simples faits serait bien réducteur pour celui qui a passé près de 250 matchs sur le banc du du Sporting de 94 à 98 dans un premier temps, puis de 99 à 2001. Frédéric Antonetti est devenu depuis un entraîneur qui compte dans le football français et qui a surtout marqué de son empreinte bon nombre de clubs, parmi lesquels Saint-Étienne, Nice, Rennes, Lille, Metz et plus récemment Strasbourg. Son expérience, son implantation forte dans les médias nationaux et sa connaissance parfaite de la Maison Bleue seront des atouts indéniables pour le Sporting. Un Sporting qui fait partie de l'ADN de Frédéric Antonetti, qui tout au long de sa carrière a toujours soutenu publiquement son club de cœur. En 2017, à l'époque de la liquidation judiciaire du SCB, il avait tenté de sauver ce qui pouvait l'être et avait clamé son envie de revenir chez lui, mais dans un rôle de grand patron du Sportif et non plus comme coach. Voilà son vœu exaucé.
Alors, au-delà de la personnalité de Frédéric Antonetti et de l'engouement qu'il suscite, ce retour soulève, Jean-Philippe Thibaudeau, de nombreuses questions pour l'avenir à court et à moyen terme du Sporting. En attendant que...
En effet, Didier, si la communication hier du club Bastia a réjoui les supporters, elle suscite en revanche de nombreuses questions et annonce des changements. Le premier, et il est d'importance, c'est qu'il faudra désormais parler de Michel Moretti en tant que coach du Sporting et non plus du duo Moretti-Lasland. Si Lilian Lasland reste bel et bien aux côtés de Moretti, il endossera désormais un rôle de véritable adjoint. Au quotidien, cela ne devrait pas avoir d'impact, mais sur le terrain et en conférence de presse, c'est désormais Michel Moretti qui tiendra les rênes. Au chapitre des questions, le communiqué hier soir du Sporting laisse certains éléments en suspens. En évoquant un accord de principe entre le Sporting et Fred Antonetti, le club ne précise pas si cet accord tiendrait toujours en cas de relégation. Un accord qui semble donner les pleins pouvoirs sportifs à Antonetti dans un rôle de directeur technique qui devra être affiné durant l'intersaison. En attendant, le Sporting doit se concentrer sur la fin de championnat et sa lutte pour le maintien, avec une probable prise de parole des dirigeants et de Frédéric Antonetti dans les prochaines semaines.
Un prochain match pour le Sporting, un déplacement à Laval. De son côté, la CA recevra Auxerre lundi, le 1er avril. La CA qui se sépare de Maxime Chanot, le défenseur arrivé en août dernier à Ajaccio, repart aux États-Unis. Le joueur de 34 ans va retrouver la Major League Soccer avec un contrat de 18 mois au Los Angeles FC. Il ne sera resté que 6 mois à la CA. Ce mercredi marque un jour important dans le processus d'autonomie de la Corse, engagé il y a maintenant 2 ans. Cet après-midi, les élus insulaires se réunissent à l'Assemblée de Corse, session au cours de laquelle le rapport du président de l'exécutif et la délibération validant le projet d'écriture constitutionnelle dans le cadre de la révision consacrée à la Corse seront soumis au vote. Si l'adoption du projet validé par la délégation insulaire et le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, ne fait guère de doute, reste à savoir maintenant avec quelle majorité cela se fera, Hélène Battini.
La Corse, dotée d'un statut d'autonomie, son insularité méditerranéenne et sa communauté historique, linguistique, culturelle, ainsi que son lien singulier à la terre, devraient faire l'unanimité aujourd'hui au sein de l'hémicycle. La consultation des électeurs corses, tout comme le pouvoir d'adaptation également. En revanche, c'est encore et toujours le pouvoir législatif, ce qu'est finalement l'autonomie, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, qui sera au cœur des discussions. La délibération et le rapport qui seront présentés cet après-midi prévoyant un vote du projet d'écriture constitutionnelle d'un seul bloc.
Alors, ce qui en l'état ne recueillerait pas les voix de toute la droite, Hélène.
Celle du président dont Sofiuno, Jean-Martin Mondologne, et d'une partie des 16 élus de son groupe, reste à savoir combien, qui voteraient contre, à regret, indique tout de même le leader de droite, qui ne cache pas sa demande en faveur d'un vote à la découpe, par alinéa, comme cela avait été le cas en 2018, lors du projet de révision constitutionnelle engagé avec Jacqueline Gourault, Madame Corse de l'époque. Le texte de l'exécutif peut en effet faire l'objet d'amendements qui pourraient être décidés dès ce matin en réunion intercommission, une modalité qui permettrait aux élus réfractaires de voter pour tous les autres points, option la plus juste, selon Jean-Martin Mondologne, et à laquelle la majorité territoriale ne ferme pas la porte, même si cela ne semble pas un message idéal envoyé à Paris.
L'unanimité, moins une voix concernant la totalité du texte, puisque Josefa Giacometti de Nazione a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne validera pas le document. Et puis l'économie dans l'autonomie, c'est le thème aujourd'hui du magazine de la rédaction à midi et demi. Jean-Philippe Thibaudeau recevra Sylvain Fanti, chef d'entreprise, Jean Brignolet du STC et Stefano Venturini, vice-président de la CCI. Après la région parisienne, les Hauts-de-France et l'Est de la France, autour des lycéens des Alpes-Maritimes, de recevoir une alerte à la bombe, des messages menaçants et une vidéo terrifiante de décapitation sur leur espace numérique de travail. L'Académie de Corse, qui a connu une vague en novembre et décembre dernier d'alerte à la bombe dans plusieurs établissements, l'Académie n'est pas encore concernée, cette fois, mais la vigilance est pour autant de mise, d'autant que le niveau alerte attentat a été relevé à son plus haut niveau dans tout le pays. On en a parlé ce matin avec le recteur d'Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, invité de la rédaction. Il répond à Caroline Saglione.
Et l'invité de la rédaction ce matin, c'est donc le recteur de l'Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à vos auditrices et aux auditeurs.
L'actu de ces derniers jours, ce sont ces menaces d'attentats via les espaces numériques de travail qu'on appelle les ENT chez vous, qui ont visé des collèges, des lycées un peu partout en France, enfin plus précisément en Île-de-France, dans l'Est, dans le Sud. Des menaces d'attentats à la bombe accompagnées de vidéos de décapitation. C'est quelque part une faille dans la sécurité au niveau de ces ENT. Et c'est aussi, Jean-Philippe Agresti, une mise en danger quand même de ces élèves qui ont été traumatisés.
Oui, les élèves et les parents ont été traumatisés, comme l'ensemble des personnels pour les académies qui ont été touchées. Je veux rappeler que l'espace numérique de travail, c'est finalement le cartable en dehors de l'école. Nous mettons beaucoup de choses concernant l'emploi du temps, concernant la relation aux parents, sur les espaces numériques de travail. Il y a un travail de fond qui est fait au niveau des espaces numériques de travail et de la sécurisation de tous nos outils numériques. Travail de fond avec la collectivité, avec le fournisseur au quotidien.
Alors la ministre Nicole Belloubet a annoncé hier la suspension des messageries de l'ENT. Est-ce que ça a été le cas également chez nous pour l'Académie de Corse ?
Ça n'a pas été le cas, mais nous travaillons, nous avons plusieurs rencontres tous les jours avec le national, avec la collectivité de Corse, avec le fournisseur, afin d'être très attentifs. Il y a en fait deux leviers sur lesquels nous travaillons. D'abord, un levier, je dirais, central, lié au rectorat, à la collectivité, au fournisseur, de veille, de sécurité, de mise en sécurité de nos systèmes. Et puis, une information à l'égard des usagers et la modification de pratiques sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois et que nous avons accentué ces derniers jours afin de mettre en sécurité nos systèmes.
Alors, ces menaces interviennent dans un contexte d'alerte maximale face à la menace d'attentat et après celui de vendredi près de Moscou, revendiqué par l'État islamique. En France, le niveau d'alerte est donc important, urgence, attentat. Est-ce que les conditions de sécurité ont déjà été renforcées aux abords de nos établissements scolaires ?
Oui, l'état d'urgence attentat fait que, avec les préfets de Haute-Corse et le préfet de région et de Corse du Sud, nous nous sommes contactés immédiatement afin de mettre en œuvre, ou plutôt de remettre en œuvre, cette situation d'urgence attentat qui fait que les forces de sécurité, police et gendarmerie, sont organisées de telle manière à ce qu'elles puissent être mobiles, passer devant les établissements et notamment chaque fois qu'il y a des regroupements, puisque c'est véritablement ça sur ce sur quoi nous sommes le plus attentifs, et pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc ce sont des procédures sur lesquelles nous travaillons, mais nous y travaillons aussi avec les élus des mairies et les élus de la collectivité.
Jean-Philippe Agresti, l'autre actualité dans l'éducation nationale, ce sont ces groupes de niveau au collège pour la rentrée prochaine, en maths, en français. Un arrêté qui les organise a été publié le 17 mars. Il s'agit, nous dit-on, d'élever le niveau général. Alors, comment vont être constitués ces groupes ?
Alors, le travail est simple. D'abord, la classe reste la référence pour deux tiers des enseignements. Pour les mathématiques et le français, donc un tiers des enseignements, 4h30 hebdomadaires, c'est le groupe qui va être l'organisation à partir de la rentrée 2024. Ces groupes seront organisés en fonction du travail des équipes pédagogiques, des évaluations pour la sixième dans la liaison école collège, et tout au long de l'année, les élèves seront réévalués afin qu'il y ait une mobilité entre ces groupes.
Alors, enseignants, chefs d'établissement, eux, sont plutôt opposés à cette réforme. Il reste, selon eux, quelques questions, notamment en termes d'organisation. Alors, comment on va s'en sortir en termes d'organisation, d'autant que, selon eux, la question des moyens n'est pas réglée.
Alors, permettez-moi d'être plus nuancé. Chefs d'établissement et syndicats ne sont pas opposés. Ils posent des questions légitimes auxquelles nous essayons de répondre depuis le mois de décembre. Nous avons eu, vendredi dernier, une commission Blanchet. La commission Blanchet, c'est avec les représentants des chefs d'établissement. Nous avons évoqué l'ensemble des questions. Il y a deux lignes directrices. La première, c'est l'accompagnement. Depuis décembre, nous avons mis en place un accompagnement auprès des chefs d'établissement et auprès des équipes avec les IAIPR pour mettre en place ces groupes. La deuxième ligne directrice, c'est l'autonomie. Nous faisons confiance aux équipes pour la mise en œuvre de ces groupes, puisque c'est véritablement là que se fera le succès. Il faut que ces groupes correspondent à la réalité de la situation des élèves en 6e et en 5e.
Alors, au chapitre des nouveautés également, il y a ces stages pour les secondes en milieu professionnel du 17 au 28 juin, 2 semaines, c'est pas rien. Est-ce que c'est une technique pour les faire partir en vacances plus tard ?
C'est ce qui permet d'assurer le continuum de l'orientation. Nous le savons, un jeune, notamment lorsqu'il vient d'un milieu défavorisé, a une perspective très faible. Il connaît très peu de métiers qu'il peut exercer. Notre travail consiste à mettre en œuvre un continuum de la 5e à l'enseignement supérieur sur l'orientation, à travers la déconstruction des stéréotypes de genre, par exemple, à travers des salons, mais aussi à travers le travail et la présence en entreprise et ses stages découvertes. Et je crois que ce stage en seconde, c'est un levier supplémentaire. Les milieux économiques, en Corse notamment, ils sont très favorables et très engagés à nos côtés.
Et on va préciser également qu'il y a une plateforme qui a été ouverte pour ces stages.
Oui, un jeune, une solution, sur laquelle seront publiées les offres de stage. Et je profite de votre antenne pour appeler évidemment toutes les administrations et toutes les entreprises à proposer des stages et à accueillir nos jeunes qui valent bien la peine qu'on leur consacre du temps.
Alors, si vous lancez cet appel, ça veut dire que pour l'instant, la plateforme vient de s'ouvrir et qu'il n'y a pas encore de propositions pour la Corse ?
Oh, vous pouvez aller vérifier, il y a déjà beaucoup de propositions et nous sommes en train de les collecter au fur et à mesure et de les mettre en ligne.
Jean-Philippe Agresti, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous étiez en direct depuis nos studios à Ajaccio. Merci à vous.
On change de sujet. L'hospitalisation à domicile, la HAD, doit être dans le giron des médecins, infirmiers et kinés libéraux. C'est en substance ce qu'a rappelé la direction de l'hôpital d'Ajaccio hier, lors d'une réunion qui se tenait au centre de la Miséricorde, le collectif Infirmieri AZ, pour dénoncer l'installation d'un bureau au sein de l'hôpital avec une infirmière coordinatrice pour l'HAD. Selon sa porte-parole, Charline Grimaldi, le coût de l'HAD est plus important quand il passe par le circuit public. 232 euros en moyenne, selon elle. Les infirmiers se sont mobilisés car elles estiment qu'il s'agit, ni plus ni moins, qu'un détournement de patientèle. Charline Grimaldi avec Paul Ortoli.
Le directeur de l'hôpital nous a dit que pour l'offre de soins pour les usagers, ça lui paraissait pertinent. Ben, selon nous, non, comme on leur a expliqué, les infirmiers libéraux, les médecins libéraux, les kinés libéraux, ça fait des décennies que l'on fait du soin à domicile et que pour certains patients, il n'y avait pas de nécessité de passer par l'hospitalisation à domicile. Il y avait beaucoup de démarchages et parfois du détournement de patientèle. Pour la société, il y a un surcoût à la journée. On nous a annoncé une moyenne de 232 euros par jour. Un infirmier libéral avec un médecin libéral, avec un kiné, on ne pense pas que ce soit un coût à la journée à cette hauteur.
Et les infirmiers se mobilisent aussi pour la défense de leur profession en préparant une manifestation le 4 avril prochain. Et puis c'est une petite révolution pour le président du service incendie et secours de la Haute-Corse qui a présenté un nouvel outil, un nouveau matériel dont disposent les pompiers des centres de Louchane, de l'Île-Rousse, de Pontelletch, d'Aléria et de Saint-Florent. Des nouveaux outils paramétriques permettant la prise de constantes ainsi que l'établissement d'un électrocardiogramme qui, avec une fiche bilan dématérialisée de la victime, pourront désormais être transmis en temps réel au médecin régulateur du SAMU et à l'établissement vers lequel la victime devrait être transportée, et cela via des tablettes numériques. C'est un progrès qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la loi dite Matras de 2021 qui permet aux pompiers de réaliser des soins d'urgence et d'administrer certaines « drogues », entre guillemets. Explication de Yassine Vagne, le président du service incendie et secours de Haute-Corse, au micro d'Hélène Battini.
On sauve déjà des vies, mais là, c'est vrai qu'avec cet outil qui permet d'avoir un électro, de choquer, de prendre la tension en continu et d'être en relation avec le SAMU en temps réel. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui fait évoluer les services de secours et d'incendie. Et pas que. Là où ils ont été positionnés en expérimentation, c'est des déserts médicaux. Et que nous, on est les seuls aujourd'hui services de secours qui arrivons les premiers. Et là, ça va vraiment améliorer la prise en charge des patients. C'est ça le plus important. On pourra arriver sur des allergies et injecter de l'adrénaline, donc délivrer à des substances qui peuvent soulager la douleur. Et je pense que ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est démunis quand on arrive sur des interventions. Il faut attendre qu'un médecin arrive. Alors, ça va pas éviter qu'un médecin arrive. Bien sûr, le médecin, il faut qu'il vienne, mais là, il aura un diagnostic en direct avec une prise de photos en relation avec le SAMU. Je pense que c'est vraiment une avancée considérable pour le secours à la personne, surtout dans le rural. Et ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Voilà.
Alors, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. 400 000 euros pris en charge par la région, un fonds fédère européen. Place à présent à notre rubrique consacrée au JO, avec la découverte d'un sport olympique, comme chaque semaine, à travers un club en Corse. Gros plan aujourd'hui sur le judo, avec le pôle espoir d'Ajaccio, qui a formé bon nombre de championnes ces dernières années, notamment les sœurs Nieto ou encore Julia Toloufa. Avec plus de 2000 licenciés en Corse, le judo fait partie des ligues les plus attractives, notamment chez les jeunes. Jeunes qui, pour certains d'entre eux, intègrent chaque année le pôle espoir, avec comme objectif de marcher justement dans les pas des sœurs Nieto et de Julia Toloufoy, Jean-Philippe Thibaudou.
Avec 30 pensionnaires à l'année, le pôle espoir corse de judo est l'un des plus petits au niveau national, mais n'en reste pas moins l'un des plus performants. Depuis plus de 20 ans, il a été un véritable incubateur à champions et championnes. Pourtant, ces dernières années, la relève semble se faire attendre. Et pour y remédier, Yves Camuset, directeur technique régional et responsable du pôle espoir judo, a décidé de changer quelque peu le fonctionnement de la structure.
On recrute les athlètes beaucoup plus jeunes, à partir de minima. Lorsqu'ils sont en cinquième, c'est la bonne formule parce que moi j'ai été nommé en 2016. Donc en 2016, je repartais sur l'ancienne trame où c'était une trame où on avait essentiellement que des cadets et des juniors. Et jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir un maximum et de tenter l'aventure avec des plus jeunes. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut faire le travail. On est arrivé jusqu'à 14 minimes au sein du pôle. Donc maintenant, on va garder ce cap et on va surtout pas le changer avec la génération des 2008-2009 qui est en train justement d'avancer et d'avancer dans le bon sens. Voilà.
Un choix qui semble en effet porter ses fruits, puisque le week-end dernier, la Corse a performé lors de la Coupe de France Minime avec 2 médailles, une grande première depuis la création de cette compétition qui laisse augurer de belles choses pour le futur.
On est toujours dans la même optique, de continuer la formation avec nos insulaires, et on peut être en passe, effectivement, de penser qu'à un moment donné, on aura peut-être certainement un jour, de nouveau, la chance d'avoir des athlètes de ce cran-là. Quoi. Donc le pôle espoir se porte plutôt bien.
Avec l'objectif, bien évidemment, de remarcher un jour dans les traces des sœurs Nieto et de Julia Toloufoa, qui disputeront fin avril, les championnats d'Europe de judo.
Allez, un coup d'œil sur la Méditerranée, comme tous les jours, avec les aires marines protégées des Bouches de Bonifacio et celles du Nord Sardaigne, qui se regroupent avec l'UNESCO au sein d'une réserve transfrontalière, une MAB, Man and Biosphere, que nous explique dans Marie Ladine avec Jérôme Souzine, Jean-Michel Coulioli, c'est le responsable de la réserve de Bonifacio.
Les aires marines protégées Corse, de Sud-Corse plus exactement, et de Sardaigne qui se rapprochent. Jean-Michel Coulioli, bonjour.
Salut et bonjour.
Avec quelles aires marines protégées de Sardaigne, celles de Corse vont travailler, et puis pour quel but ?
Le but, c'est de créer une réserve Man and Biosphère, de l'UNESCO, côté SAR, le parc national de l'archipel de la Madeleine, le parc national de la Zina, l'aire marine protégée de Santa Teresa et la réserve naturelle des Bouques de Bonifacio. Elles se sont unies sous le patronage du président de l'Office de l'Environnement côté Corse et de l'assesseur Appel Ambiente côté Sarde. Alors, une réserve Man and Biosphère, ça ne change pas forcément les règles. C'est un travail qui va tendre, premièrement, à créer une réserve Man and Biosphère côté Corse, une réserve Man and Biosphère côté Sarde, d'unir ces deux espaces par le biais de l'UNESCO pour avoir un plan de gestion commun. Et c'est un travail qui ne changera pas fondamentalement les réglementations, mais qui tendra à avoir des objectifs qui remettent l'homme au centre de la gestion de l'environnement.
Les premières actions, ça pourrait être quoi ?
C'est la construction d'un programme Interreg. La région SAR nous a demandé d'être chef de file. Et puis après, c'est de mettre en place très rapidement des observatoires communs, c'est des échanges de bonnes pratiques. Quand on explique la connectivité de ces eaux, est évidente qu'à un moment donné, on gère des populations d'oiseaux marins en commun. Ce travail, bien évidemment, sur l'amélioration des conditions de navigation, sur bien évidemment les conditions d'accueil de la petite, moyenne et grande plaisance. Il y a tous ces travaux qui doivent être
orienté avec des objectifs à mettre en commun avec bien évidemment la Sardaigne.
Merci beaucoup Jean-Michel Coyoli depuis Bonivazio pour nous expliquer ce rapprochement avec vos collègues de l'autre côté des boucs, comme vous dites-vous. Bonne journée.
Merci, merci beaucoup Jérôme. Christo.
Voilà pour l'information. Retour de l'actualité insulaire sur RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez. Sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux X et Facebook. Et dans quelques minutes, à 12h30 précise, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction aujourd'hui. L'économie, l'autonomie, l'autonomie, l'économie, c'est le thème du mag. Jean-Philippe Thibaudot reçoit Sylvain Fanti, chef d'entreprise, Jean Brignolet du STC, Stéphane Venturini, vice-président de la CCI. Rendez-vous à 12h30.